Karim Soleilyaou, bonjour.
Bonjour Jean-François Villers.
Vous êtes directeur général de Logis Hôtel. Vous venez de publier une tribune libre que vous avez intitulée « Pour des réservations d'hôtels citoyennes ». Dans cette tribune, vous dénoncez les pratiques actuelles des plateformes de réservation et vous les appelez à revoir leurs conditions et à négocier avec les hôteliers. Mais vous invitez également les entreprises et les particuliers à réserver directement auprès des hôtels. Effectivement, une majorité d'hôteliers et de groupes hôteliers, mais pas tous, se plaignent des conditions commerciales que leur imposent leurs distributeurs. C'était très vrai hier avec ce que vous appelez le diktat tarifaire, qui a été en grande partie levé par la loi Macron, mais, à vous entendre, c'est encore le cas aujourd'hui, particulièrement dans ce contexte Covid-19. Quelles sont les gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase cette fois-ci et qui vous ont conduit à publier cette tribune?
Effectivement, le Soigné, c'est une tribune qui est pour nous volontariste et pour ceux qui sont un peu mélomanes, savent que quand on veut qu'une note s'entende beaucoup, notamment au piano, on appuie fort, mais les mélomanes savent aussi qu'il faut aller jusqu'au bout de la partition pour comprendre tout le sens de la musique et de la mélodie. Donc, effectivement, nous appelons à une relocalisation heureuse des réservations avec les clients entreprises, les clients particuliers, et construire avec les plateformes un mieux travailler ensemble. Aujourd'hui, il nous paraît inconcevable, quand on voit l'élan de solidarité dans l'ensemble des secteurs, qu'un client qui veut aller passer un Nantais, qui veut aller passer une nuit à Pornichet, sa réservation passe par la Hollande. Aujourd'hui et surtout dans le monde de demain, ça ne nous paraît pas concevable. Ce qui a fait déborder le vase, alors déjà il y a un contexte avec des plateformes qui considèrent d'abord que les clients sont leurs clients, alors qu'elles sont, ces clients sont hébergés par les hôteliers, qui considèrent que les offres, annulation sans frais, réservées maintenant, payées plus tard, sont leurs offres, alors que ce sont les offres des hôteliers indépendants, et que partout dans le monde, les hôteliers indépendants vous permettent de réserver, de payer au moment du départ. Ça s'appelle un paiement au check-out, c'est pratiqué partout, ça n'est absolument pas l'apanage des plateformes, et que l'annulation sans frais, en tous les cas jusqu'à un certain délai avant le séjour, c'est pratiqué partout, et ça n'est pas un avantage non plus apporté par les plateformes. Pendant la crise du Covid-19, ça a été particulièrement criant avec les plateformes qui ont d'abord modifié unilatéralement les conditions de marché, les conditions de remboursement en particulier, la mise en avant des pratiques tarifaires qui ont été également modifiées unilatéralement. Et surtout, je pense que ce qu'on retiendra, c'est qu'au moment où tout le monde était solidaire, où tout le monde faisait preuve de compassion, où on a vu un gouvernement prendre des mesures immédiates et comprenant l'ampleur de la crise et l'ampleur du drame qui était en train de se nouer, on a des plateformes qui n'ont fait preuve d'aucune compassion, d'aucune bienveillance, aucun geste. Et ça, je veux le mettre sur le compte d'une forme de stupéfaction. Aujourd'hui, la crise immédiate est passée, ça fait maintenant un mois, et je veux croire que ces plateformes vont se réveiller, vont se rendre compte de leur absence de compassion et de mesures de soutien, et vont aujourd'hui se rapprocher d'acteurs communs, mais pas seulement, pour définir ensemble les conditions d'un mieux travail.
Je vais vous demander quand même de nous préciser, on ne va pas s'y attarder, mais quand même, dites-nous très précisément, ouais, quelles sont les modifications unilatérales que ces plateformes ont été amenées à appliquer unilatéralement depuis le début de la crise.
Je vais vous donner trois exemples. Première, modification des conditions de vente à effet immédiat. Ce sont les mails qui ont été adressés par les plateformes. Je pense notamment au remboursement, où alors qu'on travaillait à mettre en place des avoirs, les plateformes ont immédiatement remboursé les clients, leurs clients, et exigé que les hôteliers les remboursent à leur tour. Donc au moment où tous les efforts étaient portés sur la préservation d'un minimum de trésorerie, les plateformes ont au contraire eu des pratiques qui ont eu comme effet d'assécher la trésorerie des hôteliers. Deuxième pratique, on a vu tous s'adapter, travailler à distance, réinventer un bureau, et ça a pu prendre pour tous quelques jours. On a des sociétés qui ont mis en recouvrement des hôteliers indépendants pour des retards de paiement de quelques jours, pour des commissions de quelques centaines d'euros, avec des mails que j'ai pu lire, et des réponses de type « Notre comptabilité est très ferme sur ce point, et on vous met en recouvrement. » Troisième exemple, des pratiques que je condamne, qui s'appellent « marketing de la peur », pour prospecter des hôtels indépendants en pleine crise, et quand je dis en pleine crise, on est fin mars, des commerciaux de plateforme qui envoient des emails à des hôteliers indépendants en leur disant « Beaucoup de collègues de votre région sont déjà venus vers nous, nous avons beaucoup de réservations et sous-entendu, si vous ne rejoignez pas notre plateforme, vous allez perdre des clients. » Voilà trois exemples concrets qui ont fait des bordées.
Je comprends bien. Alors, s'agissant de l'obligation de remboursement immédiat, est-ce que cette pratique perdurait encore après la publication de cette ordonnance instaurant l'avoir à 18 mois?
Alors, les plateformes ont, après l'ordonnance demandant de favoriser l'avoir, il y a eu un certain nombre de modifications des plateformes, certaines plus que d'autres.
Oui.
Je voudrais souligner par exemple le travail d'Expedia qui a été de donner la possibilité aux hôteliers de privilégier l'avoir plutôt que le remboursement, sauf que la première mouture du mouvement d'Expedia était de donner 48 heures aux hôteliers indépendants pour modifier le critère dans le back-office, et le critère était par défaut à remboursement du client.
D'accord.
La semaine dernière, ils ont fait une deuxième mouture. Malheureusement, les remboursements sont quand même à 99% passés. Dans cette deuxième mouture, la coche est par défaut à avoir. Et si l'hôtelier veut rembourser, il peut aller dans le back-office, modifier ce critère.
Alors, ces modifications ont été apportées par une seule plateforme aujourd'hui?
À ma connaissance, oui. Sachant que Booking, puisque c'est la principale autre plateforme,
bien sûr,
aujourd'hui est sorti du contexte de cas de force majeure qu'elle avait elle-même instauré, indépendamment de toute décision gouvernementale, et d'ailleurs a rappelé avec beaucoup de subtilité dans sa communication auprès des adhérents qu'un grand nombre de clients apportés par Booking.com étaient internationaux, que donc n'étaient pas soumis à la loi française, et que l'entreprise Booking.com elle-même était basée aux Pays-Bas et donc n'était pas soumise à la loi française, en demandant aux hôteliers de se conformer aux engagements qu'ils avaient pris en décidant de travailler avec Booking.com.
J'imagine que ce débat est loin d'être clos et qu'il y aura peut-être des suites éventuellement judiciaires qui seront données.
Je ne peux pas répondre pour les autorités et ce n'est pas du tout le sens de notre tribune.
D'accord.
Notre tribune à nous a vocation à construire et non pas à rester sur le passé. A vocation à réveiller les esprits des clients particuliers entreprises, de nos partenaires OTA. Nous aurons besoin de tout le monde demain pour relancer l'activité et nous voulons réveiller les consciences et travailler tous ensemble pour construire l'avenir et construire le post-Covid-19 qui est loin d'être évident.
Je comprends bien. Malgré tout, je dois revenir à un autre point important, me semble-t-il, de votre tribune et qui n'est pas lié celui-ci à la crise du Covid-19, c'est la question des taux de commission, taux variables appliqués par les plateformes en fonction des groupes. En l'état de mes connaissances, les remises sur les volumes, cela se pratique dans tous les secteurs d'activité. Quand un groupe vend 1 million de nuitées par an chez un distributeur, il est normal qu'il cherche à obtenir de ce distributeur et qu'il obtienne de ce distributeur de meilleures conditions que ses concurrents qui n'en vendent que 100 000 nuitées par an. Toute la distribution fonctionne ainsi, quels que soient les secteurs d'activité, et je ne sache pas que cela soit illégal. Est-ce que vous pensez réaliste de conduire les distributeurs de voyages, de séjours en ligne, à aligner leur taux de commission sur les taux les plus faibles, quel que soit le montant des factures générées par leurs clients.
Deux niveaux dans ma réponse. Premier niveau de réponse, puisqu'on parle, vous parlez de volume, je voudrais rappeler que 82% de l'hôtellerie française, ce sont les hôteliers indépendants. Et donc, quand on parle de volume, quand on parle de volume de destination, eh bien, plus de 80% des nuitées sont chez les indépendants. Donc, si effectivement on négociait sur une logique de volume, volume de destination, volume de nuitées, la balance est très franchement favorable au volume pour les indépendants. Il n'y a donc aucune raison que les indépendants se fassent tondre par les plateformes. Deuxième niveau de réponse. Est-ce qu'on achète ? Vous parlez de volume, et le volume en général, c'est quand on achète. Or, en l'occurrence, ce ne sont pas les hôteliers qui achètent, ce sont les clients. Et de la même façon que les compagnies aériennes ne versent pas de commission aux agences de voyage, les agences de voyage, elles, se développent en facturant directement le client à qui elles apportent un service. Si ces plateformes apportent un réel service aux clients, eh bien écoutez, moi je vous propose que les hôteliers ne soient plus facturés de commission, mais que les plateformes facturent les clients à hauteur de 18% de frais de mise en relation, de frais de service, de frais de distribution, et que ce soit le client qui paye le service de manière très transparente, et que ce ne soit pas l'hôtelier qui paye, puisque effectivement, on semble vouloir continuer de considérer les 17 000 hôteliers indépendants en France comme des petits indépendants qu'on peut tondre individuellement.
Vous savez mieux que moi que les accords qui sont passés par les groupes hôteliers français, européens, américains, asiatiques sont des accords mondiaux qui permettent à leurs adhérents, à leurs membres, à leurs franchisés, à leurs succursales de bénéficier des mêmes taux de commission, quel que soit le marché. Donc ce n'est pas en l'occurrence le marché français ou européen qui va être considéré, mais c'est l'ensemble des marchés et l'ensemble des nuitées passées au sein d'un groupe hôtelier. C'est en raison de ce périmètre que les taux de commission sont significativement moins élevés dans les groupes hôteliers. Ils s'en prévalent d'ailleurs auprès de leurs franchisés et de leurs filiales.
Bon, je veux bien qu'on revienne sur des volumes. On peut prendre, je continue, hein. Vous avez les comités d'entreprise qui veulent, pour leurs salariés, faire bénéficier de tarifs plus avantageux. Ils achètent ce qu'on appelle des linéaires. Et ils prennent des engagements, c'est-à-dire que si les hébergements ne sont pas remplis, ils sont quand même payés. Vous avez les tour opérateurs qui négocient des volumes de chambres partout dans le monde avec ce qu'on appelle du plein pour vide. Donc encore une fois, si les plateformes veulent bénéficier d'une rétrocommission de 18%, qu'elles prennent des engagements. Là, on est dans une économie où il n'y a pas d'engagement de la part des plateformes, d'une part, et d'autre part, le service il est fourni aux clients. Donc il ne faut pas se tromper de qui on facture, et il ne faut pas se tromper non plus de logique d'engagement. Maintenant, je voudrais simplement encore une fois dire que, une fois qu'on s'est dit qu'on n'était pas d'accord sur l'approche du modèle économique, comment travaille-t-on ensemble ? Et je pense qu'aujourd'hui, les plateformes auront tout intérêt à afficher une forme de volontarisme d'accompagnement des hôteliers indépendants dans la reprise, plutôt qu'imaginer un après-Covid-19 à l'identique de l'avant, et imaginer que les consommateurs, qui seront moins nombreux, qui auront un revenu, on le sait aujourd'hui, plus faible, seront extrêmement vigilants au sens qu'ils vont donner à leurs achats et à la consommation demain. Donc j'aimerais qu'on puisse se dire tous ensemble, on a travaillé ensemble, et que l'ensemble des plateformes ont compris qu'elles faisaient partie d'un écosystème, pour la France un écosystème de plus de 7000 hôteliers partout sur le territoire, et qu'elles les ont accompagnées et elles ont su prendre des bonnes mesures pour la relance et la reprise de l'économie touristique locale.
Est-ce que vous avez déjà quelques indices qui vous permettent d'espérer, effectivement, de reprendre langue entre vous, entre hôteliers, entre plateformes, et d'amorcer des discussions de fond jusqu'à des compromis ou des accords partagés d'ici à l'horizon 2021. Ça vous paraît possible de vraiment d'entrer dans le vif des discussions?
Si les plateformes veulent participer à la reprise, on ne parle pas de 2021, on parle de mai 2020, d'une part. Est-ce que j'ai de bons espoirs? Oui. J'ai de bons espoirs parce que déjà, nous avons pris langue avec une de ces plateformes qui a tout de suite compris les enjeux. J'ai également de très bons espoirs liés au partage de notre tribune, de notre campagne de communication sur le fait que les réservations de demain seront les emplois partout sur le territoire. Quand je vois la manière dont les clients reprennent ces communications, les questions qui sont posées par les clients, les consciences et la pédagogie qu'on fait auprès du client, ils découvrent, je vous ai donné en introduction, les clients qui imaginaient que la réservation gratuite ou le paiement au départ était l'apanage des plateformes, qui comprennent en fait qu'elles auront exactement le bénéfice en réservant directement auprès de l'établissement. Donc, et c'était pour nous le plus important, c'était cette pédagogie qui n'a jamais été faite, parce que dans la profession, nous sommes restés sur un combat frontal qui n'a jamais abouti sur rien, sur des appels au boycott qui n'est pas du tout notre message. On a toujours laissé en dehors de ces discussions le client, entreprise ou particulier. Et aujourd'hui, les consciences s'éveillent. L'entreprise à qui on dit vous voulez développer votre RSE, votre responsabilité sociale et environnementale, mais vous avez mis une plateforme dans votre système, elle comprend que c'est en contradiction avec ses engagements, c'est en contradiction avec les attentes à la fois de ses salariés, mais aussi de ses clients. Et donc, aujourd'hui, ce qui, moi, me donne énormément d'encouragement, c'est cet élan, cette ouverture des consciences, cette pédagogie, en remettant le client au milieu et en sortant d'un duo technico-business entre les plateformes et les autres.
Mais est-ce que le vrai problème, qui n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas votre très forte dépendance, la très forte dépendance du marché hôtelier, qu'il soit celui des chaînes volontaires ou des indépendants, mais c'est aussi le problème des chaînes intégrées, c'est votre très forte dépendance à la distribution intermédiarisée. On parle depuis de nombreuses années maintenant dans votre secteur d'un développement nécessaire des ventes directes. Malheureusement, force est de constater que les parts de marché de la vente directe n'évoluent pas significativement. C'est un vrai mantra chez beaucoup d'hôteliers. Voilà, les initiatives se sont développées depuis quelques années. Je ne vais pas les citer pour faire de mal à personne, mais force est de constater qu'elles n'ont pas vraiment abouti jusqu'à maintenant. L'affaire est quand même très compliquée. Ces plateformes, vous le savez bien, davantage encore que les groupes hôteliers, investissent des milliards de dollars, des milliards d'euros pour être omniprésentes sur les moteurs de recherche, aux meilleures places. Et c'est comme ça qu'elles réussissent du coup à attirer vers elles des millions de visiteurs. Comment pouvez-vous lutter face à ces plateformes? Est-ce que vos programmes de fidélité, est-ce que la notoriété, l'image, aussi bonne soit-elle de vos marques, peuvent suffire? Quelle est votre stratégie pour faire revenir vos clients, particuliers, entreprises, vers vos canaux de vente en direct?
Alors, est-ce que tous les hôtels arrivent à développer des ventes en direct? Non. Est-ce que certains et une majorité d'entre eux le font? Oui, de mieux en mieux, voire même certains, très bien.
Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus?
Oui, je vais vous renvoyer aux chiffres 2019 de LogiHotel, où les ventes en direct ont progressé deux fois plus vite que les ventes des OTA.
Là, vous parlez des chiffres réalisés par la plateforme Logi. Central.
Je connais ces chiffres-là. Je ne connais pas les chiffres des hôteliers et de leurs ventes en direct. Je n'ai pas les comptes de résultats des hôteliers indépendants et la répartition de leurs ventes. Simplement, le travail de fond qui est mené par nos responsables régionaux permet de sortir de la peur des indépendants d'appliquer une différenciation tarifaire, et nous les accompagnons avec pédagogie, avec patience, pour démontrer que quand on augmente des tarifs et que le meilleur tarif est en direct, la clientèle des plateformes reste sur les plateformes ou une partie s'en détourne au bénéfice du direct, mais que c'est bénéfique pour le compte de résultat et bénéfique pour le développement des entreprises indépendantes. Mais je voudrais revenir sur la puissance de ces plateformes. Vous l'avez compris, ce n'est pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre qu'on souhaite travailler. Et on se félicite du rôle d'intermédiation des plateformes entre les hôtels et les clients. On se félicite également que leurs activités soient rentables et permettent leurs investissements en communication, comme les assurances. On pense qu'aujourd'hui, leur image de marque est atteinte, comme les assurances. Et les plateformes ne pourront pas relancer leurs activités comme si de rien n'était. Les plateformes vont devoir participer, comme les assurances, à un vaste plan de soutien et de redéfinition d'un environnement plus équilibré et plus raisonnable, parce que, encore une fois, nous allons faire ce qu'il faut pour que les clients comprennent comment cela fonctionne. Et aujourd'hui, les clients apprécient qu'on leur explique, apprécient qu'on les fasse rentrer dans le cœur des relations entre les plateformes, les hôteliers, apprécient de comprendre quel service est apporté par qui et qui facture son service à qui.
Vous nous dites, pas d'affrontement avec les plateformes, on peut travailler ensemble en bonne intelligence.
Oui.
Il faut se reparler, il faut tirer les enseignements de cette crise également.
Tout à fait.
Et vous avez une image que vous aimez bien employer de temps à autre, celle du môle de rugby.
Oui, effectivement, le principe du môle, c'est un porteur du ballon, toute une équipe de joueurs qui sont liés ensemble, qui sont sur leurs pieds et qui portent le porteur du ballon. Et ben aujourd'hui, c'est un peu l'image qu'on veut avoir, avec une équipe de 17 000 joueurs qui sont debout, qui sont fiers et qui sont portés par leurs centaines de milliers de clients, entreprises et particuliers, de manière à ce qu'on arrive ensemble à redéfinir un contexte favorable à l'ensemble des entreprises, y compris les plateformes, y compris l'économie des plateformes.
Karim Soleyaoub, je vous remercie.